tu écoutes Game Dolls Advance.
Les dolls les plus cool de la région.
Juste après ça.
Let's go! Hello!
Hello!
Salut!
Hello! C'est salut!
Bonjour!
Alors, on se retrouve pour la deuxième édition de Game Dolls Advance.
Ça fait aucun putain de sens.
Alors, 2.
Let's go, quoi? Donc, du coup, pour expliquer explication, les gens. Alors, vous qui voyez la VOD ou qui écoutez le podcast, comprenez qu'en fait, on a fait le live, on a fait Game Dolls Advance épisode 2 et on a oublié de record la VOD.
C'est du Twitch coup, qui est nul là. Il
oui,
désactive le truc par défaut en fait.
Oui.
Putain de Tchougal ! Pourquoi
mais oui,
pas un par
Jeff Bezos, oui. J'ai dans l'épisode 2 en fait.
Pour la petite anecdote, moi sur ma chaîne, deux jours avant, j'avais pensé à le faire, mais j'ai pas pensé à en reparler quand
ah
même.
Ah bah c'est bien, voilà. C'est cool, ça est
c'est de la transphobie, c'est de la transphobie pure de la part de Twitch.
Moi je suis même presque sûr qu'en fait c'est Emma qui a saboté l'émission en fait. Et c'était coché de base, c'est Emma qui s'est connecté pour décocher la case.
Je pense que oui. Je pense que c'est ça.
Voilà, ça y est, maintenant c'est de ma faute.
Ouais.
Bref, voilà. Du coup, on reshoot l'émission. Voilà, donc on va représenter toutes les chroniques. Petit point du coup sur l'épisode 1, vu que vous avez peut-être pas vu le live avant. On était vraiment fiers de l'épisode 1. Vous avez fait de super retours. Comme vous avez pu le voir, live, vous allez voir apprendre à beaucoup améliorer la prod. On s'est aussi lancé sur TikTok, notamment grâce à H qui a fait des super petits TikTok et des shorts sur YouTube. Oubliez pas aussi de bourrer les dons. On a eu beaucoup de gentilles personnes qui nous ont fait des petits dons sur le Ko-fi, donc n'hésitez pas à faire de même. Et en attendant, vous aimeriez qu'on n'ait pas à 5, mais on est 6 cette fois. On a notre nouvelle doll Alice.
C'est bien, on est 6.
C'est Camélica. Oui, on est 6. Oui, oui.
On est 6, bravo.
Moi, j'ai toujours été 6. Par contre, vous assignez quoi, là, en fait?
Je crois qu'on a comme vous, là, les tables. On a pas déjà fait cette blague sur le...
Si, si, mais on l'a fait.
Si, si, on l'a fait.
On perd tout pareil, si on arrive à passer l'épisode 3.
Absolument.
Faut que les différés, l'expérience complète, tu vois.
Toutes les blagues cringe trans doivent être faites, en fait. C'est obligatoire.
Oh, voilà. Okay.
Donc du coup, oui, on a notre nouvelle doll Alice, aussi connue sous le nom de Camélica. Est-ce que tu veux te présenter?
Oui, bonjour. Oui, effectivement, c'est Alice @Camélica partout, sauf sur Twitter où j'ai été ban pour mes propos sur Macron. Mais bref. je suis une game dev indépendante depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc je fais du freelance pour des studios en dev de jeux vidéo. Et à côté de ça, je dev mon jeu, donc depuis plus d'un an aussi, qui s'appelle Insurrection. Donc c'est un Metroidvania en pixel art dans lequel on incarne une lesbienne énervée bûcheronne qui va saboter les entreprises à grands coups de hache, notamment.
Elle prend la vidéaste hache.
Elle fait, allez,
là.
Détruis-moi ce patronat.
Non, avec plaisir, hein. Une grande lesbienne musclée, elle me fait ce qu'elle veut pour détruire le patronat.
Il est donc, selon Beryl, le Céleste Clocky.
Oui,
c'est Clocky Céleste.
Mais oui,
au début, je t'ai énervé et finalement, elle a raison. Beryl a raison. Je dois l'accepter. Voilà, du coup, je passe le plus clair de mon temps à faire ça. Là, dans le jeu, en contenu, j'ai tout fait tout seul, donc le pixel art aussi.
C'est le jeu qu'on a à l'écran, là. C'est vraiment, genre, moi, je trouve ça vraiment trop stylé.
Oui,
c'est archi stylé, ça a abusé. Et le gameplay, il est cool. Hein.
D'ailleurs, j'avais pas vu les nouveaux backgrounds, vraiment stylé. Hein. J'avais pas vu le nouveau background, moi.
Oh.
Je suis hypé.
Let's go. Du coup, ça fait un peu plus d'un an, ouais. Et là, en ce moment, j'apprends un peu la musique avec FL Studio et Ableton avec l'aide de notre ami Scorch.
Scorch, merci. Oh, merci Scorch pour le son.
Merci Scorch pour le son.
Il est là partout. C'est la petite main derrière toutes les trainistes qui font des trucs, en fait.
Alors, on est un peu en retard, mais joyeux anniversaire Scorch aussi.
Bon anniversaire Scorch.
Bravo l'anniversaire Scorch.
Celle-là, on l'avait pas faite en live. Il va la découvrir sur la VOD, il va être content.
Il va être vraiment heureux là, c'est sûr.
Et il va être vraiment être heureux. Bon, du coup, précision aussi, Alice peut pas être là pendant tout le reshoot de l'émission. Du coup, vous aurez quand même sa chronique et ses recos, mais du coup, pour nos chroniques à nous et nos news, elle sera pas là. Voilà. Dispositif particulier pour cette VOD, désolé.
Il fallait pas le dire, on allait mettre une image de, ils allaient y voir que du feu.
Ah oui, on allait mettre genre un PNG de Alice qui bouge pas là.
Le soutien.
Vas-y, refais. Refais.
Hop,
soutien.
Oh, elle est incroyable cette image.
Parfait.
Sinon, je m'endors un peu pendant la chronique. Le débat un peu loin, il m'a endormi, c'était trop long.
Ah ouais, on a tout le temps parlé de Elden Ring là, putain.
Tu vas être animé comme un perso de Visual Novel, tu vas avoir juste des différentes émotions selon qui parle et tout.
Personne
n'aura n'est-ce pas, Kron?
Voilà, par exemple.
Il faut
notamment
laisser Kron tranquille au bout d'un moment.
Bon, allez, du coup, sans plus attendre, on va passer aux news. Du coup, on va commencer par ma news. Alice, ça va? Alice? Ah! Allez, stun par ma news. Hein. Allez, let's go. Du coup, donc, le mois dernier, je dédiais ma news au traitement par IGN du discours autour de la mort de Batman dans Suicide Squad. IGN se retrouvait alors par naïveté, main dans la main avec les relents de Gamergate, hein, dans leur campagne d'harcèlement de Sweet Baby Inc. Si vous ne l'avez pas vu, la diffusion sur YouTube, et bien figurez-vous que malheureusement, j'ai eu plutôt le nez creux. Depuis cet événement, on voit apparaître ce qui s'apparente beaucoup à un nouveau Gamergate, déjà affectueusement appelé Gamergate 2 par ses activistes. Pour faire un petit rappel historique, Gamergate c'était, en 2014-2015, un mouvement de harcèlement de masse de journalistes, de développeurs de jeux, enfin, surtout de développeuses de jeux, avec pour point commun d'être des actrices de l'industrie agissant pour une plus grande diversité dans l'industrie, œuvrant pour la justice sociale, bref, des gauchistes. Et comme tout mouvement d'extrême droite, ce mouvement avançait masqué, en se drapant d'être simplement préoccupé par le manque d'éthique dans le journalisme jeux vidéo. En pratique, c'était du harcèlement de masse, des menaces de mort, de viol, du doxing, des alertes à la bombe, avec pour victimes les plus notables Zoe Quinn, Brianna Wu, Anita Sarkeesian, Phil Fish, Sarah Nieberg et Alison Rapp et bien d'autres. Le Gamergate, c'était une convergence en un mouvement décentralisé mais uni d'affects de joueurs réactionnaires s'opposant au féminisme, à l'antiracisme, aux luttes LGBT dans l'industrie du jeu vidéo. Les campagnes de harcèlement, elles n'ont pas commencé là. Mais on avait maintenant un semblant d'organisation qui pouvait désigner les cibles pour ensuite coordonner leur harcèlement. Le mouvement a perdu en vitesse au fil des mois et s'est diffusé en bruit de fond. Mais, pendant qu'on ne regardait plus vraiment, les restes du mouvement se sont focalisés sur les traductions woke d'œuvres japonaises, jeux vidéo comme animés. Ils se sont maintenus comme ça. Mais finalement, il ne fallait qu'un ennemi commun clairement identifié, comme Zoe Quinn ou comme Anita Sarkeesian à l'époque, pour frapper de nouveau. À la sortie d'une dernière Spider-Man, Sweet Baby Inc., boîte d'écriture et de sensitivity reading, a été pointée du doigt par les gamers, et depuis, d'autant plus avec Suicide Squad, dont on avait parlé le mois dernier, l'entreprise est désignée comme le principal coupable du wokisme gangrénant l'industrie occidentale du jeu vidéo. En effet, Sweet Baby Inc. Et ses employés sont la cible désignée du mouvement, et des chaînes comme celle d'Asmongold Gold font des demi-millions de vues sur Sweet Baby Inc. Il y a même un groupe de curation Steam listant les jeux sur lesquels sont intervenus Sweet Baby et qui emmagasine aujourd'hui 230 000 followers en deux semaines.
On est à 265 000 là.
Ah ben, let's go. Bah, dites-vous que du coup, depuis le reshoot, ça a déjà pris 30 000 de plus. Voilà.
C'est une dinguerie quand même.
Dinguerie. Et d'ailleurs, depuis le reshoot, là, enfin, entre le reshoot et la version originale, j'ai vu qu'il y a aussi beaucoup plus d'articles de presse US, etc. Et maintenant, tous les hôtels de presse en ont parlé, aux US en tout cas, pas en France. Il y a également du coup un Discord dédié de plusieurs milliers de personnes qui a été créé. Les entreprises aux activités similaires à Sweet Baby Inc. sont listées. Les journalistes aussi. Les figures venant en défense à Sweet Baby Inc. sont harcelées. Des rapprochements se font avec des champs de bataille similaires, notamment autour de Helldivers et de Stellar Blade. À l'image d'une guerre culturelle qui n'a jamais vraiment cessé aux US, Gamergate n'a jamais disparu. Le subreddit Kotaku in Action continue son activité. Ses pontes historiques, comme ses nouvelles figures, continuent leur campagne. L'harcèlement de masse reprend. La presse tente de limiter la casse. Et quand on sait le poids historique qu'a eu Gamergate dans le développement de l'alt-right américaine, qui a ensuite abouti à l'élection de Donald Trump, on ne peut que craindre l'impact qu'aura ce mouvement ressurgissant précisément 8 mois avant la nouvelle élection présidentielle américaine, avec une alt-right bien mieux implémentée que jamais. Voilà, première news un petit peu badante.
Ouais, on va jamais en finir de cette merde hein, du Gamergate.
Bah ouais, hein, c'est...
Après, je me dis que c'est pas... En fait, vu comment le premier Gamergate en fait avait été pas mal instrumentalisé politiquement par notamment Steve Bannon, quelle est sa part ou en tout cas quelle est la part de d'œuvres politiques là-dedans, que ce soit par Bannon lui-même ou par d'autres, pour pour influencer ces gens à voter, par exemple, pour une réélection de Trump, quoi. Mm. Parce que c'est comme ça que ça s'était passé en 2016. Il y avait quand même eu beaucoup de votes ou en tout cas, je veux dire, ça, c'est, les gamers gâteux s'étaient en tout cas mobilisés pour voter, quoi.
Yep.
Après, je pense que ce qui était très important aussi, c'est que les gamers gâteux, ils étaient déjà bien à droite, tu vois, genre il n'y avait pas trop besoin de les motiver,
ouais,
même
ils
si bon, on les a récupérés.
Moins,
mais le truc qui a été important aussi, c'est qu'ils ont récupéré les méthodes des gamers gâteux et les rhétoriques, et les façons de même, etc., de communiquer pour aller convaincre tout un nouveau public et pour avoir une régénération de l'alt-right aussi. Mm.
Mais toi, comme tu l'avais vu, justement, il y a pas mal quand même de gens qui voient que leur entourage se fait re-radicaliser, comme à l'époque de Gamergate.
Ouais,
genre, on voit une ressurgence de ça. Et typiquement,
j'ai vu quelques témoignages. Ouais, vas-y.
Et typiquement, autre impact qui existe au-delà de la merde que c'est déjà de Gamergate de base, là encore récemment, c'était en novembre dernier, il y avait aussi eu quelqu'un qui avait attaqué le mari de Pelosi, je crois, aux États-Unis. Et c'était un mec qui a dit dans un tribunal qu'il avait été radicalisé par Gamergate. Genre, c'est.
Oui. Et puis après, ça n'a jamais, en plus, jamais disparu, parce que tu retrouves... en fait, c'était toujours là, une sorte de vague de fond, puis sur d'autres secteurs aussi, par exemple, les secteurs de critique cinéma, de critique musicale.
Mais quand je parle aussi sur beaucoup d'animation aussi,
grand, non, mais un petit
genre
peu.
Tous les chouineurs des animations, des traductions Crunchyroll et compagnie, quoi. Et pareil, c'est pour ça que je parle de mouvements diffus, c'est-à-dire que du coup, c'est diffusé en bruit de fond, parce qu'en fait, c'était déjà le cas avant ça. Gamergate a fait une convergence sur des sites précises, ça s'est rediffus, et là ça se reconverge à nouveau, quoi. C'est vraiment par expansion et contraction, j'ai l'impression, quoi. Et qu'au final, le public est toujours là dans tous les cas, quoi.
Après, il y a quand même ce truc de le Gamergate avait été une grosse redistribution des cartes sur la table, parce que d'un côté, ça avait... C'est ce qu'on disait, il y a eu un vrai renouvellement des mouvements alt-right aux États-Unis, mais aussi d'un certain côté, l'arrivée d'un certain féminisme antiracisme libéral dans le jeu vidéo et d'un mouvement assez puissant à inclusivité. Et là, il y a un peu ce truc de, j'ai quand même l'impression que, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas cette situation où j'ai l'impression que ça va rebattre des cartes. Ça va plus re-radicaliser. Mm. Il y a peut-être ce petit espoir de « bon, ça ne va pas être pire ». Après, derrière, c'est toujours des gens qui se font... Enfin, c'est toujours des gens, concrètement, qui se mangent du harcèlement extrêmement violent, des menaces à domicile et tout. Donc, je ne veux pas non plus... Enfin, voilà, ça reste de la grosse merde, par contre. Voilà.
Mais après, du coup, j'ai quand même une crainte là-dessus. C'est que du coup, il y a deux trucs. Donc, effectivement, comme tu dis, genre... finalement, genre Gamergate, ceci terminé parce que genre on a gagné en fait. C'est-à-dire que c'est la conf que faisait Sarkisian à la GDC il y a 2-3 ans que j'avais assisté. Elle disait c'est bon, les représentations, on a win sur ce côté-là. Tu vois, maintenant c'est plus des questions de représentation au sein des boîtes, de syndicalisme, etc., qui se posent vraiment sur les gens qui font les jeux plutôt que sur le contenu des jeux eux-mêmes, parce qu'on voit qu'on a atteint le plafond de ce qu'on pouvait atteindre juste en pure représentation un peu cynique de on le fait par quota, quoi. Et du coup, maintenant, c'est plus une question des équipes de développement, etc. Comment est-ce qu'on modifie ça? Comment est-ce qu'on améliore les conditions de travail et compagnie? Par contre, moi, une inquiétude que j'ai par rapport au timing de ce Gamergate-là, bon, effectivement, ça va peut-être pas rebattre les cartes pour l'élection présidentielle. Par contre, pile à un moment où on a une grosse restructuration de l'industrie en général avec toutes les vagues de licenciements, etc., j'ai peur que ce soit une tentation pour des boîtes ou des éditeurs, des grosses entreprises, de reconsidérer leur engagement qu'ils avaient jusque-là depuis Gamergate précédent, le rajuster maintenant. Après, pour l'instant, ça se passe bien. Sweet Baby Inc., de ce qu'ils ont témoigné, leurs partenaires actuels, Sony et compagnie, ont renouvelé leur engagement, les ont même aidés à faire face au harcèlement qu'ils subissent. Mais j'ai peur que ce ne soit pas le cas de manière perpétuelle si ça continue, que ça s'ancre dans la durée, quoi.
Bah, l'avenir nous le dira, quoi.
Ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, comptez sur moi pour... ça fait 2 fois d'affilée, c'était pas prévu que je fasse des news là-dessus. Ça se trouve, dans un mois, ça va encore avancer, on en reparlera.
Ça va devenir
fil rouge bizarre, là.
Ça va devenir fil rouge, le truc dont tu parles à chaque fois.
Ah oui, j'espère que ça va durer longtemps, comme ça, tu pourras en parler à chaque GDA.
pour
malheureusement, le fascisme, ça dure longtemps, ouais. Ouais.
Pour ressouligner un truc que t'as dit aussi dans ta chronique et que j'avais pas trop réalisé jusque-là, c'est que effectivement on en parle très très peu en France, alors que ça commence à être un vrai sujet sur lequel il y a eu plein d'articles aux États-Unis. Et genre, à un moment, faut se réveiller un petit peu et faut réaliser que c'est des sujets qui sont importants et faut pas attendre qu'il y ait des. Enfin voilà, il y a déjà des devs qui se font très très violemment à harceler. Genre, on va pas refaire le truc du Gamergate à attendre au bout de 3 ans pour que ça arrive dans la presse, etc. Et genre, voilà, merci déjà d'en avoir parlé, et j'espère que ça va, qu'il va y avoir cette réaction-là au moins.
Yep, let's go. Bah, du coup, on peut passer à ta news, H.
Ah bah oui. J'ai même plusieurs news. Hop. Type important de Boba, qui a un peu descendu par rapport aux recos qui sont dans le futur. Mais c'est pas grave.
En fait, vous pouvez voir...
On a pris un deuxième.
En fait, vous pouvez comparer l'ordre du montage contre l'ordre d'enregistrement en juste comparant le Boba de H.
Oui, oui. Quand parce que là, c'est le bordel en plus. Hein. C'est chaotique, l'enregistrement.
Du coup... oui, du coup, la dernière fois dans mes news, on m'avait dit de faire un peu plus joyeux, surtout qu'en plus, Leno avait son truc pas très ouf, etc. Du coup, on va commencer par la mort de Akira Toriyama, évidemment.
Ouais.
Ouais.
Ah, il a vraiment mort ça, ouais. Désolé, c'est une blague sur Libé. Non, mais c'est une blague sur Libé.
Jamais Libé, hein.
Je fais pas. Non. Ah oui, ah, j'ai trois
au micro de Victorino et de Jeanne Rousseau pour essayer
de faire
Dragon Ball Dead. Leur,
oui, c'est ça.
Ouais, c'est
leur titre.
Avec une image de Sangoku, tu vois. Genre, pas de. Toriyama n'avait pas de visage. Du coup, qui est mort d'un hématome cérébral. Il y a toujours un petit peu ces morts chez les mangaka qui sont très très violentes, très brusques, et que beaucoup ramènent aux conditions de travail qui sont horribles et au rythme de travail auquel les mangaka sont exposés. Il y a quelqu'un entre temps depuis l'enregistrement, enfin depuis le stream, il y a quelqu'un sur Twitter qui a fait une petite liste de morts de tous les mangaka. Hors mangaka qui sont morts dans des accidents, je crois que la moyenne d'âge était dans les 60 ans, dans les débuts de 60 ans, contre 80 d'espérance de vie au Japon. Du coup, c'est joyeux, mais du coup, voilà, ce petit rappel que ouais, l'industrie du manga est extrêmement violente, mais c'est aussi évidemment, voilà, cette petite news, c'est aussi l'occasion de rendre hommage à un auteur qui est très important, qui a une influence énorme jusqu'à Samir 34 qu'on salue, hein. Oui. Qu'on salue notre roi.
On peut se dire aussi qu'en plus souvent pour des mangaka aussi connus que celui de One Piece, pas One Piece.
Putain,
je suis une golemon là. Désolé. Berserk, comme celui de Dragon Ball et Berserk, voilà. C'est que du coup c'est des gens qui meurent jeunes, hein. Et tu pourrais dire vu le succès de leurs œuvres.
Ouais.
Normalement, ils devraient avoir le capital économique, etc., pour pouvoir vivre dignement, etc., et réussir à dépasser l'espérance de vie. Et non, les refs crevent à 60 ans, en fait.
Bon, autant Miura, tu te dis, il avait quand même eu un rythme de délingo et tout, autant Toriyama, on pourrait se dire que c'est pas celui qui a les moins bonnes conditions de vie, quoi.
Après, ouais, ça, tu l'as balancé, enfin voilà, il y a aussi le truc de, il les a vécus pendant un certain temps quand même,
oui,
puis au bout d'un moment, tu les prends, type, il bossa, parce que c'est aussi ça, le type bossa dans le manga.
T'es abîmé, quoi, tu les...
C'est, ça, c'est pour, c'est pour dire que là, c'est que c'est même pas celui qui est le plus à plaindre, et pourtant, il est mort à quel âge, 68 ans, c'est ça?
Ouais. Et voilà, Toriyama, qui a été quelqu'un d'important dans le manga, quelqu'un de super important dans le jeu vidéo au Japon aussi, évidemment, Dragon Quest. C'est pas le seul jeu, j'ai plus allé sur le nom, mais voilà, Dragon Quest.
Dragon Quest 11.
Ouais, quel banger.
Ouais.
Chrono Trigger.
Le premier Dragon Quest,
je vous le recommande, même si...
Vraiment une révolution dans le RPG, et naissance.
Mettez la musique
du RPG,
en mute. De toute façon, il est dead lui aussi, donc, mais lui, on ne va pas lui faire dommage.
Oui, c'est vrai, oui, effectivement.
Vas-y,
prochaine news. La grève chez Ubisoft, ça c'était censé être les brèves. Hein. Grève chez Ubisoft le 14 février contre la direction qui n'écoute aucune des revendications des syndicats et qui ne veut pas avoir de standards de salaire, etc. Et du coup, 700 salariés d'Ubisoft en grève, annoncés par le STJV. Quel banger, quel masterclass.
Oui.
Mais en vrai, extrêmement bon signal dans le bras de fer. Alors, est-ce que ça va faire bouger la direction d'Ubisoft? On ne sait pas, on l'espère. On attend les prochains mois. Ça veut aussi dire que, quand t'as 700 salariés sur un groupe sur un jour de grève, en plus, il y avait des rumeurs en mode, il y a eu une AG, et il y en avait, même si c'était pas le plan du tout de base, il y en a une vingtaine qui étaient déjà là en mode, putain, let's go, on reconduit, etc., on lâche rien. Bon, ça va pas être cette fois-ci parce que c'était pas prévu et que tu lances pas une reconductible là comme ça sans rien, mais ça annonce beaucoup de belles choses pour le syndicalisme dans le jeu vidéo. Bravo à LE, donc au syndicalisme du STJV, de Solidaire Informatique et même de la CFE-CGC. pour vous dire à quel point personne n'est content chez Ubisoft, qui ont appelé ensemble à la grève, qui ont organisé cette grève et qui ont balancé du lourd.
Bravo la bagarre.
Bravo.
Let's go. Hein.
Et enfin, on va dire rapidement, courrier des lectrices. Beaucoup de gens qui avaient réagi à notre petite annonce avec plein de jus sur la main de Shinji, cette scène célèbre. Elle était parfaitement dans le thème. Un instant de la déchéance absolue de la masculinité. Vraiment, je vois pas le souci.
Dites-vous, c'est sur Chrome qui a mis Chrome dans, qui a lancé Chrome dans Evangelion. Elle s'est dit, putain, je veux voir le contexte de cette scène.
Je veux voir qu'elle avait déjà lancé la scène avec le Mosper. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et quel poulet, hein, Evangelion. C'est vrai qu'on a terminé l'épisode. Ouais. C'était quel épisode qu'on a fini hier?
Je sais plus, 16, c'est genre 16. Et le suivant, c'est mon préféré en plus, j'ai trop hâte.
Et.
Ah là, mais vous faites ça sur quel. Vous faudra me dire sur quel Discord vous faites ça, j'ai envie de l'arc.
Ouais.
Du coup, Kron qui nous disait, c'est de l'ostrodose, il y a la bouteille derrière, je vous jure, c'est pas du Mosper. Alors, c'est elle qui a demandé au dernier moment, mais... en mode, ah, on peut rajouter un peu de une bouteille de ostrodose en flou derrière, tu vois, genre c'est rien.
Non, mais c'est
genre,
rigolo,
c'est vraiment l'excuse de personne.
Tout le monde sait
personne,
que c'est du Mosper.
Mais après, il l'a dans la main, genre le ref, il met genre 20 doses en fait, genre c'est pas ça.
Oui, et genre, puis elle, ouais, elle a bien tourné son ostrodose, hein, parce que toute blanche comme ça,
genre quand t'as vu ça,
après,
il
faut se la frotter quelque part. Quoi, tu vas pas juste la laisser dans ta main, en fait. Bon. Quoi, c'est...
Y a aussi Margot, aka Gomar, qui nous dit le Girl Come épisode. Et vas-y.
Vraiment, ostéoporose et 10%, quoi. Genre.
Avec ou sans carte? Non, attendez, ça c'est pour la suite.
vraiment,
la blague du surfus.
La blague du
futur.
Vous comprenez cette blague dans
tous les épisodes comme ça, en fait. Genre,
je pars,
les publier dans des ordres différents du stream. Du coup, Margot qui nous dit le Girl Come épisode est arrivé très vite. Eh bien, écoute, Margot, un mois, je pense que c'est un délai habituel pour du Girl Come. Donc voilà, pas de soucis là-dessus. Elles sont trop mignonnes, elles re-rigolent à mes blagues. Genre,
mais elles sont vraiment drôles, tes blagues,
oui,
désolé.
Mais tu es drôle,
moi, je l'avais oublié. Hein.
Tu veux qu'elle va en éconne aussi, hein, genre.
c'est pas faux. Et maintenant, pour ma grosse news de la semaine autour du QS. Est-ce que c'était moi ou on a un peu changé? Non, bon, bah, tout va bien. Non, ça va, Leno, c'est pas Leno, c'est toujours pas changé, visiblement.
Tout va bien.
Tout est dans l'ordre des choses.
Il y a une dose qui a disparu. Une dose de plus qui a disparu. Visiblement, je crois qu'il y a une épidémie. Hein.
Il en restera qu'une à la fin.
Il s'est passé quelque chose.
À la fin, il n'en restera qu'une.
Il restera qu'une bunny girl qui pue.
Oui, en lambeau, là. L'outfit tout graisseux.
Oh là là. Alors, petit collant déchiré.
Pas lavé depuis 6 semaines.
Oh. Bon, bah ça. Oh. Ça
le petit bun pas lavé.
On passe à la news de H ou pas la suite de la news de H.
Je te ferai des petites photos de momie qui te demandent d'aller te laver.
Du coup, QSMP,
non, mais je vais t'expliquer ce que c'est que le QSMP, et puis voilà,
oui, qu'est-ce que
c'est un serveur Minecraft international qui a été lancé par Quackity, donc c'est un serveur Minecraft où il va y avoir quelques joueurs, mais ces joueurs, ça va être des streamers assez connus, donc c'est une mode qui est là déjà depuis quelques temps avec le Dream SMP qui a réuni des millions et des millions de viewers il y a quelques années. Quackity était un des membres, sauf que bon, bah Dream, plus personne ne parle trop avec lui parce que c'est un peu un connard. Et du coup, Quackity a refait un truc avec plein de streamers internationaux, dont des streamers français, Antoine Daniel, Baguera Jones, Apierre, Étoile.
Les Goats.
Et les Goats.
Surtout Apierre.
Étoile qui nous a ramené Samuel Etienne, seul, je sais pas si je pourrais lui pardonner un jour.
Oui, c'est vrai que du coup, Étoile, j'ai beaucoup d'affection pour lui, Samuel mais le côté Samuel Etienne, c'est vraiment le...
Oh là là.
Oh, sans Étoile, on n'aurait jamais eu Samuel Etienne au Pégase.
T'as vu les... Bah ouais, je pense qu'on s'en serait passé, quoi.
Non, mais... En fait, vous aimez pas les short kings, c'est ça votre...
c'est notre transmisandrie primaire.
Ah oui.
Est-ce qu'on parle du QSMP ou
oui,
est-ce qu'on parle des conditions de travail ou est-ce qu'on first sur Samuel Etienne?
Non, les conditions de travail de Samuel Etienne, vas-y.
Plutôt, ouais.
Du coup, qu'est-ce qui se passe sur ce serveur? Donc, c'est un serveur où il y a beaucoup... Voilà, qui est au final assez petit, c'est juste quelques personnes, mais que beaucoup de gens regardent et qui demandent beaucoup d'entretien. Il y a plusieurs admins qui travaillent à temps plein sur ce serveur, qui font de la traduction, qui produisent du contenu, des petits fanarts, etc., des trucs du genre, qui incarnent des PNJ en jeu, donc voilà, qui vont être des personnages qui vont jouer aussi, mais qui pourront pas trop parler, etc., et qui vont incarner des petits rôles. Et on a découvert, avec une surprise immense, que ces admins, entre guillemets, n'étaient pas payés. On leur faisait signer un NDA, donc il n'y avait aucun contrat de travail. Ils bossaient des horaires temps plein.
Oui, mais c'était bénévole.
Nuit, d'ailleurs.
Ouais, ah, mais c'était bénévole.
Il y avait de la bonne volonté. Plein de bonne volonté.
C'est bon seigneur, on peut les laisser travailler sur ce projet. Merci. Hein.
Et du coup, effectivement, bah, ils bossaient temps plein dans des conditions de travail qui étaient très difficile, c'était du taf de nuit avec des horaires précises, ça pouvait être 20h, 3h du mat, une pression énorme, globalement on leur faisait miroiter une embauche après quelques mois, si tout se passait bien, entre guillemets, mais par contre, ils avaient une vraie obligation de productivité, et s'ils faisaient pas ce qu'on leur disait, et dans les productivités qu'on leur disait, on leur disait, on va juste te remplacer, on va te dégager du serveur, t'as aucun contrat, on peut te balancer à l'eau. Et ça allait jusqu'au niveau où la discussion entre travailleurs était interdite. Ils n'avaient pas le droit, toutes les discussions devaient se passer sur le Discord officiel où tout le monde pouvait avoir accès à tout, ou à peu près, en tout cas les admins pouvaient avoir accès à tout, et ils n'avaient pas le droit de créer des groupes de discussion privés entre travailleurs.
Quel enfer, genre...
pas du tout un red flag, ça. Hein.
Mais oui, genre, de base, c'est le pire red flag dans une boîte. Et là, en plus, c'est censé être entre bénévoles.
Ça,
genre...
c'est un mécanisme l'isolement des victimes de harcèlement moral. Première, béaba, effectivement, du red flag. Donc, on a découvert tout ça, effectivement, donc, avec le témoignage de Léa, alias Léa Zagne, qui a donc bossé 4 mois pour le QSMP, avec, entre guillemets, période d'essai, de période d'essai de rien du tout, puisqu'il n'y avait pas de contrat, à chaque mois, on a redit qu'elle allait être embauchée le mois prochain, à chaque mois, on lui a dit qu'elle allait être un peu payée, finalement, elle s'est battue pour choper 4 balles, et pour se faire dégager... elle s'est battue pour choper 150-200 balles, et se faire dégager comme une malle propre.
Ouais, 150, elle dit, lit dans son tweet.
Ok.
Après, c'est rien par rapport au taf qu'elle a sûrement fait.
Complètement. Genre, si on prend le SMIC, c'est 5 000 balles qu'il lui doit facilement au minimum. Donc, elle a contacté le syndicat Solidaire Informatique, et puis ensuite, elle en a parlé sur Twitter. Et effectivement, tout ça, c'est des conditions du travail déguisé. C'est-à-dire que c'est pour une boîte qui fait de l'argent et qui fait bien de l'argent. C'est des horaires précis, c'est une obligation de productivité. C'est tout simplement du travail au black. Et il faut essayer de le prouver.
Et du coup, c'est un appel à témoins qu'ils ont lancé, Solidaire Informatique.
C'est ça, mais entre temps, il y a eu un deuxième, quand on a eu le temps avec les reshoots, il y a un deuxième communiqué,
ouais, ouais.
Et ça va aller plus loin même. Parce qu'effectivement, entre temps, du coup, il y a eu un premier message de Quackity, donc le streamer qui organisait tout ça, qui laissait entendre, alors c'était un message très vague, où il disait juste globalement, tout va être réglé, on va répondre aux demandes de tout le monde. Tous les fans ont compris, ils vont payer tout le monde, ils vont payer ce qu'ils doivent à tout le monde, arrêtez de râler. Et il y a eu quand même des petits... Quand il y a plusieurs millions de fans, ça tourne très forcément, et que tu reçois des dizaines et des dizaines de messages, ça tourne très vite au harcèlement des victimes, en mode, c'est bon, fermez votre gueule, maintenant ça vous allez être payé. Étonnamment, il y a eu un deuxième message, une deuxième communication, un petit peu plus tard dans la semaine, qui était un petit peu plus carré, un petit peu plus préparé, c'est celle qu'on voit ici, et où cette fois-ci, c'est moins clair. Il nous dit que, déjà, il va réduire drastiquement les effectifs chez les admins, et la taille du serveur, ce qui est logique, parce qu'il a peut-être pas non plus le fric de payer des dizaines et des dizaines de personnes, et le message ne mentionne plus de rémunération. Ou alors, dans le futur, on va rémunérer les gens bien. Mais du coup, est-ce que tous ces travailleurs qui ont passé 4 mois à bosser à temps plein, ils vont être rémunérés? On ne sait pas. On n'a plus aucune, on a plus aucune idée.
Ça va.
Non, mais là, en plus, j'ai vu dans la vidéo.
150 balles, ouais. Ça va.
Non, puis en plus, là, j'ai vu de Kokiti où il dit, ah, il va tout régler. En plus, je vois qu'il y a plein de dons qui passent, des bits et tout. Donc, je pense que c'est bon, il pourra payer des gens, du coup. Non ?
Ouais, ouais, bah voilà, je pense que les dons qu'on fait à Kokiti, ils vont être répartis. C'est le ruissellement, tu sais.
Ouais, le ruissellement des bits.
C'est comme ça que ça marche dans le. Dans...
du coup, j'ai.
On donne beaucoup d'argent au patron, ils vont aller les donner.
Ouais. Parce que du coup, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, on fait plusieurs reshoots de... parce qu'on peut pas être là tous les jours.
Non, c'est fort, on est en live là.
Il manque des gens. Mais du coup, il y a eu des choses qui sont sorties entre temps, et notamment, H, tu en parlais, ce tweet de. Enfin, ce communiqué de Solidaire Informatique qui parle plus précisément suite à cette collecte d'informations, cet appel à témoins qu'il y a eu il y a quelques jours, quoi.
Ouais, exactement, et qui justement qui dit clairement cette fois-ci Kokiti a dit commence très clairement à préparer le terrain pour ne pas payer et on va partir à l'attaque. Alors je vais être sincère, il est sorti hier soir, je donnais cours à P8 de 18h à 21h, je n'ai pas eu le temps j'ai eu le temps de regarder en travers le communiqué à peine, mais en tout cas voilà, ça va partir sûrement vers la justice. Mais il faut savoir que c'est pas gagné parce que c'est difficile de prouver du travail déguisé. Il faut montrer, il faut avoir des preuves matérielles de ces horaires, de l'obligation de ces horaires, de l'obligation de résultats. Alors cette fois-ci, c'est passé beaucoup à l'écrit par les serveurs, par le Discord d'organisation. Mais voilà, c'est toujours un petit peu dur à prouver. Et c'est pour ça qu'on espère aussi un certain soutien de la part des streamers et des streameuses. Qui participent au QSMP. On sait que, on sait qu'il y a différents engagements chez les streamers, mais il y a Baguera et Antoine Daniel qui ont déjà exprimé clairement leur non-approbation de ce genre de conditions de travail pour les admins et pour les gens qui font tourner le serveur, tout simplement. Et du coup, on espère que c'est une pression qui continuera. Alors, on sait, et je sais que vous allez rebondir un peu là-dessus, on sait que, c'est dur parce que les streamers français n'ont pas forcément le plus gros poids, mais on espère que ça pourra, que tout ça pourra jouer.
Oui, puis niveau soutien, Pierre, son soutien, c'est qu'il a commencé à lancer des vagues de harcèlement sur les gens qui se plaignaient un peu trop, donc bon.
Oui, tout n'a pas le même engagement, quoi. Mais bon, après, ouais, c'est cool aussi de voir. Moi, ça ne m'étonne pas de la part d'Antoine Daniel et de Baguera de réagir de cette façon. Mm. Et puis, on va voir comment est-ce que ça se déroule, quoi.
Ouais.
Et parce que Antoine Daniel a dit qu'il ne retournerait pas sur le serveur tant qu'il ne serait pas réglé, c'est
ouais,
ça
c'est ça. Mm.
Je pense qu'il y a aussi un petit enjeu en termes de communauté internationale. Genre, comment dire ça, les gens qui suivent QSMP et qui suivaient DreamSMP même à l'époque, il y a vraiment une communauté internationale assez forte qui se soude. C'est beaucoup de la Gen Z et beaucoup des gens où ça leur parle un peu, des threads un peu « Oh, alerte, il y a ces trucs pas cool qui se passent, il faut qu'on agisse tous et toutes ensemble. » Du coup, on espère aussi un peu une solidarité de ce côté-là qui se crée sur une communauté qui est très forte comme ça. J'espère.
Et puis en fait, moi, du coup, de base, ma crainte, c'est un peu comme de base sur QSMP, genre les Français sont quand même un peu en mode en retrait dans la com, etc. Genre, c'est pas les principaux acteurs du QSMP. De base, j'ai un petit peu la crainte en mode j'ai peur qu'on soit un peu les seuls à autant revendiquer aussi fort, etc. Et que du coup, ça avance pas trop. Mais comme en vrai, leur communauté de base est plutôt internationale maintenant. Typiquement, le stream de Baguera, notamment, de ce que j'ai pu voir sur TikTok, genre il est maté vraiment par des gens qui regardent du QSMP en général, pas juste des Français. Mmh. Et du coup, on peut espérer que ce soit un des vecteurs qui fait que effectivement ça s'internationalise, quoi.
Ouais. Oui, parce que là, de toute façon, par exemple, Solidaire, ils peuvent agir pas que en France, tu vois. Ça concerne que les gens qui bossaient sur QSMP français, quoi.
Oui, bien
donc
sûr.
Peut-être voir aussi comment est-ce que ça coopère entre les différents pays, s'il y a des actions syndicales qui sont lancées à droite à gauche, quoi.
Mm.
Ouais.
Mais aussi, ouais, Baguera, elle est très intégrée aux groupes internationaux et tout. Elle est très amie, elle joue beaucoup avec des gens qui sont pas du tout français. Donc peut-être aussi qu'il peut y avoir une pression via elle de ses potes qui vont être là en mode si en plus on perd Baguera à cause de toute cette histoire, ça va un peu nous faire chier et tout.
Ouais, c'est possible.
J'ai la vision des streams de Bagheera où je vois les redis sur TikTok où tu vois qu'il y a genre 5 langues traduites automatiquement à l'écran tellement elle a de gens qui viennent de partout sur stream.
Moi, c'est dingue. Moi, j'ai vu les, j'ai vu un best-of de Antoine Daniel qui jouait à, qui jouait sur QSMP et des TikTok de Étoile aussi qui était. Et ça a l'air vraiment stylé, quoi. Ça a l'air d'être un vrai projet. Bon, après, j'espère que ça va, que, qu'il va y avoir réparation, enfin, amélioration des conditions de travail, réparation pour les employés, etc., quoi. Et que tout ça s'arrange.
Pour les en vrai, ouais, on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est des projets qui sont un peu ouf. Enfin, moi, j'avais suivi un peu après coup la lore du Dream SMP et le nombre de révolutions, de grandes attaques qui se sont préparées pendant des mois, etc. Et c'était vraiment rigolo, quoi.
De fou. Ouais, de fou.
Et pour conclure d'ailleurs rapidement là-dessus, c'est cool parce que ça fait parler de ce sujet-là, le travail gratuit, des, enfin les admins, les serveurs Minecraft qui utilisent du travail d'administration gratuit, etc., qui vont choper des gens un petit peu qui ont tout juste la vingtaine et qui sont très heureux de jouer les bénévoles, etc., bah, c'est très très répandu. Ce leader avait déjà attaqué Erisium en début d'année ou en fin d'année dernière autour de ça, et c'est sans compter plus généralement bah, le fait qu'il y a, avec le jeu en ligne, qu'il y ait de plus en plus de ce travail gratuit, de ce travail semi-professionnel qui se passe avec toute la création Roblox aussi, qui devient... Enfin, on avait vu le documentaire de People Make Games qui avait fait une vidéo YouTube là-dessus et qui montrait que bah, ouais, il y avait du vrai fric qui se faisait, souvent avec du travail de gamin qui n'était pas du tout rémunéré et qui était assez, assez contraint et assez violemment... assez violemment poussé à bosser, donc voilà.
Le fameux et documentaire de Edge Bomber Guy sur le son de Roblox.
Oui.
Ah putain, ouais.
Oui, il en parle aussi.
Un documentaire, la même chose, mais ouais.
Oui, oui, pardon, c'est pas le... C'est juste...
Ah, mais t'inquiète, t'as bien fait penser.
Il parle aussi de l'exploitation
du gosse. Le PTSD des vidéos de 3h, 4h.
Ouais. C'est pas PTSD, hein, moi j'adore.
3h, ouais, j'en sais rien.
Je crois que c'était que 2h30.
Bon, allez, est-ce qu'on passerait pas à la news de Chrono?
Oui. Oui, ma news. Alors moi, en fait, de quoi je vous parlais déjà, je vous parlais... Regardez la biboune qui s'est
rappelée. Oh, bébé
entre... Elle dort, elle fait dodo.
Belle. Petit bébou. Bref.
Quel bébé.
Bref. Mais c'est pas de ça dont je vais vous parler, c'est pas ça ma news. Ma news, en gros, c'est qu'il y a eu deux annonces deux plus ou moins annonces de jeux, de live stream en tout cas, qui ont lieu sur ces derniers jours, sur ces dernières semaines. La première, ça a été l'annonce de... Dune Awakening. Pour une fois, je dis annonce, mais c'est pas vraiment des annonces. C'est que ça avait déjà été annoncé, mais on a plus d'infos avec un live stream. Du coup, Dune Awakening, c'est un jeu qui est développé par un studio qui jusque-là a fait alors des jeux à licence, mais vraiment de tout petit scope. C'était vraiment de petits jeux, et là, c'est leur premier gros jeu. En partenariat direct avec Universal. Et ce live stream, c'était aussi l'occasion de parler. Alors, la moitié du truc, c'est les développeurs, les game directeurs qui sont là à dire « Oui, on a pu visiter les sets de Dune 1, c'était incroyable pour réaliser cet univers et tout. » Et la deuxième partie, c'était plus sur le gameplay un petit peu. Ils n'en ont pas montré grand-chose, mais de ce qu'ils ont montré, ça a l'air quand même très stylé. Ça bande beaucoup l'Unreal Engine 5.2, un truc comme ça. Je dirais, ils ont passé beaucoup de temps à parler. Voilà, grâce à Unreal Engine, on peut faire ça, on peut faire ci. Bon, on s'en fout un petit peu. Ça fait pas. Enfin, si, ça fait bander pas mal de gens et c'est un peu incompréhensible. Mais le jeu a l'air très cool pour l'instant. Alors, ce sera un MMO Survival. Donc sur Arrakis, hein, dans l'univers de Dune.
Comme putain de survival.
Ouais,
j'avoue qu'en voyant le trailer, moi j'ai vraiment soufflé au moment où j'ai vu d'abord des environnements vides et puis juste tu vas balancer un rayon de minage sur un coin de. Mais vas-y, fais ton kiff.
Ouais, après moi. Moi qui ai vraiment aimé les deux films Dune. Qui a un peu moins aimé la vieille version, mais bon, mais il y a Sting en slip, donc ça va. Du coup, je suis intéressé, quoi. C'est pas vraiment de la hype, mais j'ai hâte d'en avoir un petit peu plus sur ce jeu et pouvoir mettre ça sous la main, sous les dents, parce que j'aime bien les MMO Survival, j'aime bien l'univers de Dune, et bah, ça a l'air quand même intéressant, quoi, comme jeu. Le deuxième jeu dont je voulais vous parler, alors c'est un. C'est un remaster. C'est le remaster en fait de Age of Mythology. Alors il sera sous le nom de Age of Mythology Retold. Age of Mythology, il y a beaucoup de gens parmi vous qui connaissent déjà le jeu. C'est un jeu de 2002, un jeu de stratégie en temps réel. Tiré un petit peu de la saga, en fait c'est développé par Ensemble Studio qui sont aussi les développeurs de Age of Empire, etc. Tout ça pour Microsoft, c'est Microsoft Games hein, ce jeu c'est vraiment vraiment une grosse partie de mon enfance. Le jeu est juste exceptionnel, la campagne est incroyable, les voice lines surtout, les voice lines sont folles, j'aime trop, la musique est incroyable, bref le jeu est vraiment cool. On a eu quelques screenshots pendant ce avec les tweets, il y a eu quelques annonces sur le live stream mais rien de méga important. On n'a pas eu beaucoup de reveals. Par contre une annonce de sortie dans 2024, autant pour Dune Awakening, on n'a pas encore d'annonce de sortie de mois, d'année ou quoi, on ne sait pas du tout. Là pour Age of Mythology Retold, ce sera cette année là et là par contre, là la vraie hype, j'ai tellement envie d'y jouer. Et s'il faut qu'ils le sortent toute fin décembre 2024, juste pour coller dans le truc, mais qui c'est le plus de temps pour développer le jeu, ou que ce soit ou que la sortie soit décalée, j'en ai rien à foutre, en fait. Pitié, donnez-moi un jeu qui marche, avec des serveurs qui tiennent, un jeu qui n'est pas full buggé, comme, par exemple, Warcraft 3. Pardon, Reforged.
J'y pensais, justement.
Ouais. Et là, en plus, il y a quelques jours, avec le reshoot, enfin, non, c'était pas il y a quelques jours, c'était hier, je crois. Est-ce que c'est un remaster de Battlefront 2 ?
Battlefront, c'est même un remaster, c'est...
Quoi même pas un remaster, très remaster. C'est juste, ils ont ouvert les trucs, et... En gros, il y avait 10 000 joueurs qui voulaient jouer. Mais il n'y avait que genre 3 maps avec 60 personnes maximum.
3 serveurs, il y a 200 personnes qui peuvent jouer, genre littéralement. Donc il y a plein de gens qui ont acheté ça, genre 27 balles, ouais. Un truc comme ça, pour ne pas pouvoir jouer au jeu, parce que tu peux même pas jouer entre potes ou quoi. Donc c'est vraiment en mode.
Au moins tu peux jouer au jeu, parce qu'il y en a qui ont payé 27 balles pour une démo, quoi.
t'as un problème avec les démos qui coûtent cher, Kron?
Non.
Non, pas de soucis. Ok. Juste pour savoir, pour être sûr.
Ouais, bien.
Mais moi, du coup, ça fait rire, parce que ça me fait penser du coup au Schwinner de Helldivers à la sortie, parce que les devs n'avaient pas prévu autant de joueurs à la sortie. Du coup, t'avais eu genre, les serveurs à pleine capacité, mais genre, il y avait en même temps, il y avait genre. C'était genre 40 000 joueurs concurrents en même temps. Du coup, forcément, ça débordait, quoi.
Oui,
et
puis
ça déborde à 200 joueurs.
Voilà, c'est ça, c'est pas prévu du tout. Là, c'est EA qui sort qui sort 3 serveurs, il y a 200 joueurs qui peuvent jouer à leur jeu. C'est EA, quoi. C'est
ils se sont dit, en vrai, ça fait que Scorch le jeu. Du coup, ils se sont dit, voilà, quoi.
Ouais, autant un jeu qui est victime de son succès. Tu vois, moi, je comprends que ce soit, genre, en termes de. Si le jeu il explose alors que t'avais pas prévu autant, qu'au niveau des serveurs, au niveau de l'architecture, tout ça. Ça pose problème parce que t'imaginais pas qu'il y ait autant de gens sur ton truc. Là, Battlefront,
ça va, oui.
C'est vraiment
en plus. Pourquoi est-ce qu'ils rajoutent pas des serveurs ? Ils peuvent pas brancher. Moi, j'ai un serveur sur mon PC. Hein. Je peux prêter si vous voulez.
Il y a eu un mini scandale en plus autour de ça parce qu'ils ont sorti plein de jeux en même temps hier. Donc, genre les Battlefront, les Command & Conquer, etc. Une dizaine, quinzaine de jeux, je crois. Et en fait, il y a ce système sur Steam de les jeux qui vont être très hypés, donc beaucoup de wishlists, beaucoup d'achats vont apparaître sur la homepage. Et en vrai, les développeurs, pour beaucoup de développeurs qui font des petits jeux, c'est super important de build up au fur et à mesure de leur promo pour arriver sur la homepage. Genre, c'est littéralement le truc qui va leur filer 90% de la visibilité à la base du jeu et qui va leur permettre de snowball après. Et en gros, hier, pendant 3 jours, ils ont pris 10 slots sur ce truc-là, et il y a plusieurs jeux qui avaient préparé depuis des années pour pouvoir apparaître dans cette là et qui n'y ont jamais été et qui sont fait dégager en 5 minutes.
J'ai vu le tweet ce matin.
Voilà.
Ouais.
Et donc le voilà, en gros, voilà une développeuse qui parle de son jeu indépendant sur lequel elle a travaillé pendant 10 ans qui se fait jarter des
top jeux trending, quoi.
Parce que t'as IA qui balance des jeux comme ça à l'arrache sans que ce soit annoncé, parce que je pense que si ça avait été annoncé, la développeuse aurait
oui pas. Moi j'ai vérifié parce que j'étais en mode un peu réac, en mode c'est bon, les devs choisissent mal leur date, voilà quoi. Et en fait non, j'avais été vérifié sur SteamDB, ils ont juste shadow drop. Mais le pire, c'est qu'en plus, vraiment, ça fait même
drop,
pas.
Ils arrivent, ils drop 10 jeux et puis basta. Quoi.
Et tout ce que je comprends pas vraiment, c'est que. Tu vois, genre, ça fait pas sens marketing pour une boîte aussi grosse qu'elle est de sortir plusieurs jeux le même jour, tu vois. Genre, c'est juste un move qui nique tout le monde et même eux, tu vois. Genre, je veux dire, en termes de marketing, t'as un intérêt à garder l'intérêt des gens et genre, même si tu fais du shadow drop, hein, tu l'étales un petit peu, un minimum, tu vois. Là, je ne comprends pas ce move en fait, en plus de ça. Juste, c'est juste un move qui baisse tout le monde sauf eux. Mais même eux, je suis même pas sûr que ça vaut tant le coup que ça, quoi. À part le petit côté coup de presse, tu vois, en mode, du coup, t'auras plein d'articles en mode, ah, il y a plein de jeux qui viennent de sortir. Mais en vrai, si t'étales sur une semaine, c'est déjà mieux, quoi.
Surtout ouais, qu'il y a ouais. même pas un live après, ou quoi, il y a plus, même pas un direct.
En plus, ouais. ça a l'air d'être soit des petits jeux, soit des packs d'extensions qui sont labels comme ça, comme jeux. Ça a l'air d'être un petit peu ça, quoi. Mm. Enfin, y a beaucoup de fois les mêmes noms. Avec des prix standardisés pour des DLC, pour des packs de maps, etc. Donc, ouais.
Yep. Et du coup, ouais. Et du coup, si vous voulez soutenir le fameux jeu qui s'est fait baiser, c'est Potions: A Curious Tale. C'est un petit jeu d'aventure crafting où tu fais des petites potions. C'est ce que j'ai compris.
Vous l'avez juste là à l'écran.
Non, j'ai envie d'avoir l'avis de Chrome sur le jeu maintenant, du coup.
Ouais, les Wholesome Games, ouais.
allez.
Non, je rigole. Pas.
Allez.
Vraiment pour ça, on avance. Allez, lui tiens un coup de main du coup pour son jeu parce que en plus quand tu développes un truc pendant longtemps et que tu te fais un petit peu niquer comme ça par du shadow drop de IA,
de fou.
Ça doit foutre un petit peu la haine.
Non, en plus le jeu il est un peu original en plus dans son approche de son gameplay et tout.
Ouais, ça a l'air un peu cool.
Ouais. Du coup, est-ce qu'on passerait pas du coup aux chroniques?